Donc, responsable de tout l'univers. Donc, de tout le poids d'iniquité du monde d'aujourd'hui. C'est écrasant, c'est bien évident si on était seul, mais c'est dans le cœur du Christ. Jésus, ça a été pour toute l'Église, nous, c'est pour le moment où nous sommes sur la terre. C'est le moment particulier où nous continuons le mystère de l'incarnation, de cette manière-là. Et nous continuons ce mystère d'amour qui est dans le cœur de Jésus et qui se prolonge dans notre cœur. C'est tout ça qui est impliqué dans cette conclusion théologique qui veut préciser le caractère propre de cette alliance qui existe entre le cœur, entre le Christ et nous. Et on ne s'arrête jamais aux conclusions théologiques. Mais on se sert de la conclusion théologique pour mieux comprendre la parole de Dieu, pour aller plus loin dans le mystère de la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut bien saisir. Et dès qu'on a conclu que la charité, l'agapé, est bien une amitié divine, immédiatement nous revenons au texte de l'Écriture pour comprendre toute la force qui nous est donnée dans ces textes de l'Écriture. Alors, nous avions vu les trois objections, j'y reviens pas. Elles sont moins importantes, mais elles sont quand même très belles, puisque c'est pour nous montrer que, de fait, cet amour d'amitié qui existe dans le cœur de Jésus fait que nous sommes en liaison dans une vie commune avec Jésus. Tout amour d'amitié implique une vie commune. Alors la vie commune, elle prend des modalités différentes. Vivre sur la terre tout ce que Jésus a vécu. Et le fondement de toutes les spiritualités repose là-dessus. Vivre le mystère de Nazareth, le mystère de Bethléem, vivre le mystère du désert, vivre le mystère de la vie apostolique de Jésus, vivre le mystère de la croix. La vie commune, c'est justement faire que la volonté qui est dans le cœur du Christ s'incarne en nous pleinement et totalement. Et alors, les deux dernières objections, c'est pour montrer de fait l'extension de cette charité. Alors, l'article 2, nous avions commencé à voir, l'article 2 est très important pour nous faire entrer dans le mystère de la charité comme vertu théologale. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous disons que la charité est une vertu théologale? Nous voulons, par là, comprendre que la charité est quelque chose de créé dans l'âme. Le propre de la vertu, c'est justement de nous ennoblir. C'est le propre de la vertu, c'est de nous ennoblir. Donc, c'est d'être quelque chose qui est une qualité. La vertu est une qualité, exis, hein, en grec. C'est ça le propre de la vertu, c'est exis. Bien parmi les qualités, l'exis est la première des qualités. Alors on a traduit habitus. C'est vrai que la vertu est un habitus. La vertu est exis parce que c'est quelque chose qui vient s'ajouter à la dunamis. La dunamis, c'est la puissance, potentia. Puissance. Il y a en nous des capacités de puissance, c'est-à-dire une capacité d'agir. Alors l'exis vient transformer la dynamis pour lui donner un pouvoir nouveau, une orientation nouvelle. Alors il faut bien comprendre, hein, on va essayer de comprendre du reste, qu'est-ce que c'est qu'une vertu théologale. Saint Thomas ne va pas insister beaucoup là-dessus, parce que dans la prima seconde, saint Thomas avait traité déjà qu'est-ce que c'était qu'une vertu théologale. Donc c'est présupposé connu, voyez. Et on va tout de suite voir, parmi ces vertus théologales, qu'est-ce que c'est que la charité. Donc le développement de la vertu théologale n'est pas fait. Alors, je crois qu'il sera bon pour nous, puisque nous ne pouvons pas nous référer et faire le traité des vertus théologales, d'essayer, à travers ce que saint Thomas dit sur la charité comme vertu, voir qu'est-ce que c'est qu'une vertu théologale. Important à bien saisir. Parce que c'est une vertu d'un caractère tout à fait particulier. La vertu théologale n'est pas seulement, et on se sert de exis, en disant habitus et vertu, mais c'est quelque chose de tout à fait particulier. La vertu théologale implique exis et dynamis. C'est le propre de la vertu théologale. Oui. Là encore, les deux analogies différentes pour saisir ce que c'est que la vertu théologale. La vertu théologale est à la fois une nouvelle capacité et en même temps une exis. Une nouvelle exis, un nouvel habitus. Un habitus, vous voyez, c'est quand vous faites des exercices, vous acquérez un certain habitus. Quand vous avez fait 100 fois le même trajet en portant une brouette pleine de ciment, justement, au bout d'un certain temps, il arrive une certaine habileté. Vous avez la possibilité de le faire beaucoup mieux que la première fois. Parce que vous savez que telle planche a tel défaut, alors vous évitez ça. La première fois, vous cognez dessus. Et ça, c'est ça l'habitude, on connaît le trajet. Alors on connaît parfaitement le trajet et on ne se heurte pas dessus. Quand vous avez fait 100 fois la route, hein, la montée d'en bas jusqu'ici, vous connaissez tous les mauvais tournants et vous ne tombez plus dans le fossé. Parce que vous connaissez ça parfaitement. Voyez, et tandis qu'au début, on risque toujours. C'est ça l'habitus. Alors transposer ça dans l'ordre spirituel, l'habitus nous permet de comprendre l'influence du Saint-Esprit sur nous. De comprendre qu'au bon tournant, l'Esprit Saint est là. Et qu'il nous influe. S'il n'y avait pas d'habitus, on ferait la sourde oreille. On ne comprend rien du tout. Dès qu'il y a un habitus, on comprend. Vous voyez, on a un affinement. C'est un affinement. Alors que quand il n'y a pas d'habitus, ça durcit. On en aurait notre oreille qui se durcit. Alors on n'entend plus rien du tout. Et quand elle s'affine, c'est ça. C'est beaucoup plus qu'une habileté. Mais l'habileté fait partie de l'habitus. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus qu'une habileté. C'est quelque chose de plus. Il y a une souplesse intérieure, il y a une habileté, il y a un affinement. C'est ça que donne l'habitus. Alors transposer ça au plan surnaturel, vous voyez, quand on dit que la charité est un habitus, que la charité est une vertu, ça veut dire qu'elle vous donne une docilité parfaite à l'égard de l'Esprit-Saint. Vous n'avez jamais plus envie d'endurcir votre cœur et de ne pas écouter le Saint-Esprit. Vous avez une propension à être parfaitement docile au Saint-Esprit. C'est ça la charité. La charité vous rend en connaturalité avec l'Esprit Saint. Vous avez les mêmes mœurs que l'Esprit Saint. C'est merveilleux. La charité nous donne les mêmes mœurs que l'Esprit Saint. Nous donne les mêmes goûts que l'Esprit Saint. Il nous donne une connaturalité à l'égard de l'Esprit Saint. Et nous arrivons alors à avoir une docilité absolue à l'égard du souffle de l'Esprit. Il faut comprendre ça petit à petit. Donc, la charité est-elle quelque chose de créé dans l'âme? Alors, nous l'avions vu, comment saint Thomas rappelait la théorie du maître de sentence, c'est toujours très important de se rappeler ça. Le premier saint Thomas, du reste, accepte cette théorie en disant que la charité n'est pas quelque chose de créé dans l'âme, mais le Saint-Esprit lui-même habitant notre esprit. Donc, on voit très bien comment, dans l'Église latine, l'influence des pères grecs s'est fait sentir longtemps. Et alors, vous allez me dire, c'est la théologie saint Thomas qui est le grand coupable et qui a fait le grand tournant. Il y a un petit quelque chose de vrai. Il faut bien le reconnaître. Il y a un petit quelque chose de vrai. Mais comprenons bien, ce petit quelque chose de vrai, c'est pour qu'on aille plus loin. Ce n'est pas du tout pour diminuer le mystère. C'est ceux qui comprennent mal saint Thomas qui disent que saint Thomas diminue le mystère. Saint Thomas, au contraire, dit qu'il y a quelque chose de créé dans l'âme. Pour aller plus loin, il le dit textuellement. Donc il s'agit d'entrer. Même si on ne comprend pas, il faut quand même comprendre l'intention de saint Thomas. Mais aille bien regarder, une telle opinion tourne plutôt au détriment de cette vertu. Et donc au détriment de la coopération de l'âme et du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc dire qu'il y a quelque chose de créé dans l'âme par l'Esprit-Saint, ce n'est pas du tout supprimer l'action de l'Esprit-Saint, c'est au contraire comprendre que l'action de l'Esprit-Saint peut aller plus loin. Parce que l'Esprit-Saint va créer dans notre âme une disposition, un habitus, exis, une vertu, qui sera la vertu de charité, qui nous permettra de mieux répondre au Saint-Esprit. Tandis que s'il n'y avait pas cela, le Saint-Esprit aurait beaucoup de peine à nous faire manœuvrer. Parce que nous serions de pauvres êtres humains fatigué. C'est vrai, quand il n'y a pas la vertu de charité. On est de pauvres êtres humains fatigués, alourdis par les conséquences du péché originel. Et donc, parce qu'on est alourdi par les conséquences du péché originel, on serait un très mauvais instrument. Complètement rouillé. Je dirais pas l'huile du Saint-Esprit. Complètement rouillé, complètement appesanti. C'est ça notre nature humaine, hein, quand elle n'est pas ennoblie par la grâce, quand elle n'est pas ennoblie par la charité. Elle est un instrument, peut-être un instrument de Dieu, Dieu peut se servir, mais elle, c'est très rouillé. Et c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est intéressant comme argument de saint Thomas, n'est-ce pas ? Parce qu'autrement, on dirait, mais oui, c'est beaucoup plus beau ce que disent les orthodoxes, c'est bien plus beau ce que disent les pères de l'Église, c'est bien plus beau, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Oui, mais attention, regardez la cage dans laquelle se trouve le Saint-Esprit. C'est, regardez, le Saint-Esprit, en vous, il est comme dans une prison, parce que vous n'êtes pas assez ennobli. Vous êtes un pauvre pécheur. Alors, il faut d'abord ennoblir la cage pour que le Saint-Esprit puisse vraiment y habiter, y demeurer, et alors épanouir pleinement et totalement tous ses désirs. Parce que s'il est uniquement à se servir d'un pauvre instrument qui est tout empêtré en lui-même, qui est tout entier retourné sur lui-même, l'Esprit Saint ne peut pas agir en toute liberté. Et toujours, hein, n'oublions pas, c'est le grand principe de saint Thomas. Il s'agit d'une coopération. L'Esprit Saint agit en nous en voulant se servir de nous. Donc c'est une coopération. Toute la vie chrétienne implique une coopération de la très sainte Trinité et de nous, en passant par le cœur du Christ. Et quand elle passe par le cœur du Christ, c'est pour aller plus loin. Cette coopération ne peut être parfaite que si, de notre côté, nous sommes suffisamment nobles, suffisamment purifiés, suffisamment élevés pour coopérer. Et toute la question est là. Si nous étions suffisamment nobles, suffisamment purifiés pour coopérer directement, il n'y aurait pas besoin de l'habitus. Mais comme nous sommes à un niveau très inférieur au Saint-Esprit, puisque nous sommes une pauvre petite créature, et une pauvre petite créature pécheresse, nous avons besoin d'être purifiés avant, d'être ennoblis. Et on est ennoblis par, justement, le point de vue de la charité, qui est quelque chose de créé dans l'âme, qui vient ennoblir l'âme. C'est de cette manière, je crois, qu'il faut saisir ça. Et ça, c'est très important à bien le saisir. Et vous voyez, il faut partir de la coopération. Si vous ne partez pas de la coopération, vous ne comprenez pas. Parce que vous dites, mais c'est beaucoup mieux qu'il n'y ait pas d'instrument. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. C'est beaucoup mieux qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Attention, les intermédiaires sont utiles quand il y a une trop grande distance entre celui qui agit et celui qui pâtit. Et plus celui qui agit se communique avec force, plus il faut de médiateurs. C'est la grande loi pour saint Thomas en disant il n'y a plus de médiation dans la nouvelle alliance que dans l'ancienne parce que Dieu se communique plus. Dans l'ancienne alliance, il faut moins de médiateurs. Il faut plus de médiateurs dans la nouvelle alliance parce que Dieu se communique plus. Alors parce que Dieu se communique plus, il faut que la créature soit plus adaptée à ce souffle d'amour. C'est du reste assez facile à comprendre, ça, parce que dès qu'on comprend, vous voyez, je prends toujours l'exemple de la double médiation qu'on peut faire. Ça. On peut faire un cours préparatoire ou on peut faire un cours magistral. Le Saint-Esprit aime mieux faire un cours magistral qu'un des cours préparatoires. Ça. Elle aime mieux un cours magistral. Or, pour pouvoir faire un cours préparatoire, c'est très simple. Mais pour pouvoir faire un cours magistral, il faut d'abord disposer les gens. Et donc on a besoin d'être disposé à cela. Alors à ce moment-là, on est capable de recevoir un cours magistral. Autrement, ça nous échappe complètement, ça nous dépasse complètement. C'est les deux manières, vous savez bien, de médiation. Il y a la médiation en s'adaptant et la médiation en adaptant l'autre. Alors, en adaptant l'autre, vous faites un cours magistral, en s'adaptant, vous faites un cours préparatoire, la propédeutique. C'est important, parce que ce sont des clés, ça. C'est, une fois que vous avez compris ça, vous voyez tout de suite les deux manières de concevoir. Alors, le Saint-Esprit aime mieux faire des cours magistraux. Demandez-lui, il vous le dira. Moi, j'en suis sûr. Il vous demande rien beaucoup mieux que de faire tout le temps des cours préparatoires. Il est mieux laisser à tel ou tel le soin de faire des cours préparatoires. Et puis, lui peut agir magistralement, comme l'air. Parce que Saint-Esprit ne s'est pas incarné. Si Saint-Esprit ne s'est pas incarné, c'est parce qu'il aime bien faire des cours magistraux. C'est tout simplement pour ça. Il aime bien d'agir pleinement et totalement, comme l'aigle. Un aigle aime bien d'agir royalement, ça fait partie du vol de l'aigle. Tandis que si, de fait, il s'était incarné, il parlerait notre langue. Tandis que non, c'est propre de l'amour. L'amour n'aime pas de s'adapter, c'est curieux ça. Il y a quelque chose dans l'amour qui n'aime pas de s'adapter. C'est l'intelligence qui s'adapte, mais pas l'amour. L'amour, c'est le vol de l'aigle. Alors le vol de l'aigle, il aime de faire des raptes. Tu vois, il saisit, il envole. Donc il ne prépare pas. Et l'Esprit Saint, c'est l'aigle, c'est le souffle de l'aigle, le souffle d'amour, le souffle du feu qui arrache. Alors il faut qu'on soit disposé pour ça. On est disposé de deux manières, par la charité et par ceux qui sont les témoins du Christ pauvre, par Marie et tous ceux qui sont les témoins du Christ. Et c'est le rôle de Marie, c'est de nous adapter pour permettre au Saint-Esprit d'avoir ces envols très très forts, très puissants, où l'Esprit Saint ne s'adapte pas. Vous n'avez qu'à comprendre, c'est très très curieux, ça c'est le propre de l'amour. Le propre de l'amour, c'est de brûler les adaptations. Il n'aime pas, c'est l'intelligence qui adapte, c'est l'intelligence. Nous vivons un monde d'intellectuels fatigués. Alors nous voulons toujours adapter, adapter, adapter. Parce que nous n'aimons pas assez. Alors on va adapter indéfiniment. Il faut toujours des adaptations, il faut des méthodes d'adaptation. Alors que si on vivait plus, on brûlerait toutes les adaptations dans justement cette puissance de l'amour. C'est ça l'Esprit Saint, vous comprenez ? L'Esprit Saint n'aime pas tellement les méthodes d'adaptation. Il aime d'agir librement avec force. Et alors, par une espèce de miséricorde extraordinaire pour nous, il nous a donné le premier paraclet, Jésus, qui est une adaptation merveilleuse. C'est le Verbe qui s'était cher, c'est le Verbe. C'est l'intelligence qui s'adapte, c'est la lumière qui s'adapte. Il nous a donné Marie, il nous a donné tous les saints. Il a donné tous ceux qui sont proches de nous pour être des pédagogues, pour être de ceux qui nous aident à entrer. Et lui, alors, souffre selon sa force directe. Ceci, c'est pour comprendre comment la charité est quelque chose de créé dans l'âme.
C'est pour empêcher le panthéisme aussi.
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est pour empêcher le panthéisme.
Ah oui, c'est pour empêcher le panthéisme, c'est sûr, c'est ce que je disais hier. Le panthéisme, c'est pour éviter le panthéisme, hein, en premier lieu. Vous voyez ? Je disais hier, pour éviter le panthéisme, autrement c'est un tout. Voyez, alors, Dieu respecte la nature. Dieu respecte la nature humaine. Mais ici, c'est pour essayer de mieux comprendre le point de vue de l'Esprit Saint par l'Esprit Saint. Vous voyez, il y a les deux points de vue. Alors, voyons tout de suite la première objection. Saint Augustin dit en effet, « Du moment qu'on aime le prochain, on doit aimer l'amour lui-même. Or, Dieu est amour. » C'est donc Dieu que l'on aime, principalement. Et au même traité, il ajoute, il est dit que Dieu est charité, comme il est dit que Dieu est esprit. La charité, c'est donc Dieu lui-même, et non pas quelque chose de créé dans l'âme. Alors, réponse. L'essence divine est charité. Ipsa essentia divina est caritas. L'essence divine elle-même, donc elle est absolument simple et elle est charité, agapé, comme elle est sagesse et bonté. De même donc que nous disons être bon par la bonté divine, sage par la sagesse divine, du fait que la bonté qui est en nous est une participation de la bonté divine et que la sagesse qui est en nous une participation de la sagesse divine, de même, la charité par laquelle nous aimons le prochain, identifiée dans l'objection à Dieu, est une participation à la divine charité. Cette manière de parler est coutumière chez les platoniciens, et saint Augustin était imbu de leur doctrine. Il ne faut pas l'oublier. Imbutus, Stefan, il dit, était imbu de leur doctrine. Aussi, les formules qu'il emploie occasionnellement occasionnent-elles des erreurs chez ceux qui n'y prennent pas garde. Quod quidam non avertendes ex verbis eius sum serunt occasionem errandi. C'est rare que saint Thomas est aussi net par rapport à saint Augustin, déjà. Mais c'est parce que là, il veut justement bien faire comprendre qu'il ne faut pas prendre ce texte de saint Augustin pour dire ce point de vue-là. La charité, c'est donc Dieu lui-même. Très curieux, ça. C'est intéressant à noter. Donc saint Thomas montre très bien que dans un style platonicien, et c'est vrai, les pères grecs sont avant tout, se servent avant tout du néoplatonisme. Et l'héritage orthodoxe est du côté du néoplatonisme. Plotin, il ne faut pas l'oublier, a été source de tout un aspect des énergeia divines. C'est dans Plotin qu'on doit retrouver la source. Alors, c'est du néoplatonisme. Vous voyez, quand donc on oppose le point de vue de la théologie latine et de la théologie orthodoxe, n'oublions pas que ces deux théologies ont l'une et l'autre un apport grec. Alors, plus ou moins néoplatonicien, plus ou moins aristotélicien. Mais il faut reconnaître que les deux traditions impliquent Platon et Aristote. La tradition latine, Augustin, saint Thomas. Augustin, Bonaventure, saint Thomas. Donc, Augustin, le néoplatonisme. Bonaventure, le néoplatonisme. Et puis, saint Thomas, l'aristotélisme. Et du côté des Grecs, on peut dire que la majorité des Grecs, c'est du côté néoplatonicien. Mais il y a Maxime le Confesseur, heureusement, au milieu d'eux. Alors, Maxime le Confesseur montre qu'il y a quand même, au milieu des Grecs, une certaine tradition aristotélicienne. Oui. C'est intéressant de voir ça, parce qu'au fond, ça diminue énormément les oppositions. Quand on sait la source, quand on voit la source, parce qu'alors on comprend qu'en effet, le néoplatonisme et l'aristotélisme peuvent être complémentaires d'une certaine manière. Il n'y a pas d'opposition à mettre. Il y a à comprendre que le néoplatonisme explicite certains aspects, l'aristotélisme explicite d'autres. L'aristotélisme explicite avant tout le point de vue de l'analyse, le néoplatonisme explicite avant tout les synthèses, la participation. Alors, je vois maintenant la seconde objection. Dieu est spirituellement la vie de l'âme. Comme l'âme est la vie du corps, lui-même est ta vie. Est-il écrit au Deutéronome. Or, l'âme vivifie le corps par elle-même. C'est donc par lui-même que Dieu vivifie l'âme. Et comme c'est par la charité qu'il la vivifie, selon la parole de saint Jean, nous reconnaissons à l'amour que nous avons pour nos frères que nous sommes passés de la mort à la vie. On doit donc conclure que Dieu est la charité elle-même. Seconde objection. Réponse. C'est par mode d'efficience. Effective. C'est par mode d'efficience que Dieu est la vie de l'âme par la charité et du corps par l'âme. Mais c'est formellement que la charité est la vie de l'âme, comme l'âme est la vie du corps. De ceci, on peut donc conclure que de même que l'âme est unie immédiatement au corps, ainsi la charité l'est à l'âme. Donc cette petite distinction très intéressante, parce que ça évite le panthéisme, n'est-ce pas, cette petite distinction que donne saint Thomas, en voyant comment on peut dire que le Saint-Esprit est l'âme de notre âme. Comment nous pouvons dire que Dieu est l'âme de notre vie divine? Saint Thomas dit simplement effectivé. Vita effectivé. Dieu est la vie effectivée de l'âme par la charité, du corps par l'âme. Effectivé, c'est-à-dire la cause efficiente. Qui dit cause efficiente dit une causalité extrinsèque. Tandis formalitaire dit la cause formelle et dit par le fait même l'immanence. Donc, Dieu agit par l'intermédiaire de la charité. Et si Dieu agit par l'intermédiaire de la charité, ça nous aide à comprendre justement que le point de vue effectif de Dieu par l'intermédiaire de la charité, tandis que le point de vue de la grâce est directement ce qui informe l'âme. Troisième objection, rien de ce qui est créé ne possède une vertu infinie. Bien au contraire, toute créature n'est que vanité. Or, la charité, loin d'être vanité, s'oppose plutôt à tout ce qui est vain. Et de plus, elle a une vertu infinie, puisqu'elle conduit l'âme humaine au bien infini. Elle n'est donc pas quelque chose de créé dans l'âme. Alors, réponse. La charité agit comme une forme. Caritas operatur formaliter. Donc, la charité opère formellement, comme une forme. Or, l'efficace d'une forme dépend de la puissance de l'agent qui produit cette forme. Que donc la charité ne soit pas quelque chose de vain, mais qu'elle produise un effet infini en unissant notre âme à Dieu et en la justifiant, cela prouve l'infinité de la puissance de Dieu qui est l'auteur de la charité. Et ça, c'est très beau. C'est de montrer que la charité est le fruit direct de l'amour de Dieu sur nous, un fruit qui reste toujours lié à sa source, et par le fait même qu'il a une vertu infinie comme sa source. Il faut dire que la charité a une vertu infinie. Bon, alors, on a donc vu dans l'article 2 comment la charité est quelque chose de créé. Nous allons maintenant entrer l'article 3. La charité est-elle une vertu? Et là, nous avons ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, voyez, je vais bien essayer que vous compreniez. Il y a amour d'amitié et vertu. Voilà les deux analogies pour expliquer l'agapé caritas. La charité. Au point de vue humain, comprenez bien, au point de vue humain, l'amour d'amitié et la vertu sont deux choses différentes. Aristote s'est posé la question, est-ce que l'amour d'amitié est une vertu? Il dit non, ce n'est pas une vertu. L'amour d'amitié est la fleur des vertus. Ce n'est pas une vertu. Pourquoi? Parce que par l'amour d'amitié, je touche ma fin. Je suis uni à la personne même qui est mon ami. Et donc, je touche une finalité. Alors que le point de vue de la vertu est essentiellement ordonné au moyen. C'est le propre de la vertu, c'est d'être ordonné au moyen. La vertu de prudence regarde les moyens. La vertu de tempérance regarde les moyens. De sorte qu'on ne peut pas être en même temps amour d'amitié et vertu. On sait très bien, il y a des gens trop vertueux qui ne sont pas amicabilis. Ils sont incapables d'être amicabilis, ils sont trop vertueux. Il y a une certaine rigidité dans la vertu. La vertu est bonne, hein. Il y a une certaine rigidité dans la vertu qui demande d'être dépassée dans l'amour d'amitié pour être uni à la fin. La fin est beaucoup plus souple que les moyens. Si j'étais toujours uni à ma fin, je serais beaucoup plus souple qu'aux moyens. Alors, au point de vue philosophique, au point de vue humain, la même réalité ne peut pas être vertu et amour d'amitié. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'ordre surnaturel, la charité est à la fois vertu et amour d'amitié. Oui, voilà les deux analogies. Ceci, c'est pour comprendre le raisonnement de saint Thomas. Hein, pour comprendre la cuisine du théologien. La cuisine du théologien, c'est de chercher les deux analogies qui sont les plus opposées et que toutes les deux nous aident à comprendre le mystère. Comme ça, ça nous fait comprendre que le mystère est au-delà des deux analogies. Autrement, on bloquerait l'analogie du mystère et on croirait comprendre. Alors, on ne comprend pas. Le mystère demeure le mystère. La charité demeure mystérieuse. Elle demeure un mystère pour nous, un mystère que nous portons en nous, un mystère dont nous vivons. Alors, pour éclairer ce mystère, je me sers de l'analogie de l'amour d'amitié et de la vertu. Bon, saint Thomas fait toujours comme ça. Une fois qu'on a compris cette clé dans saint Thomas, bien, on peut y aller. Je comprends très bien comment ça se fait. On prend la cuisine, les deux ingrédients. Les deux ingrédients. Amour d'amitié, vertu. Alors, voyons. Ici, la charité est-elle une vertu? Saint Augustin dit, vous voyez, quand il s'agit d'amour d'amitié, il avait pris Saint Jean, quand il s'agit de la vertu, il s'agit de Saint Augustin. Saint Augustin dit, la charité est une vertu qui, lorsque notre affection est parfaitement droite, nous unit à Dieu et nous le fait aimer. C'est une vertu. Qui dit vertu veut dire quelque chose que nous possédons. La vertu est un avoir. L'amour d'amitié qui nous unit à la fin n'est pas un avoir. Vous n'avez aucun avoir dans l'amour d'amitié. L'amour d'amitié nous appauvrit plutôt. Tandis que la vertu nous enrichit. On est riche de ses vertus. Vous n'avez qu'à les énumérer, vous verrez toute votre richesse. Vous êtes riche de vertus, c'est votre avoir, ça. C'est une richesse extraordinaire, les vertus. C'est vrai, c'est une carapace merveilleuse, n'est-ce pas? Les vertus, c'est quelque chose. Alors, l'amour d'amitié, au contraire, ça touche la fin et ça ne nous donne aucun avoir. Parce que je ne possède jamais la fin. Je suis lié à la fin, mais je ne la possède pas. Très curieux, ça. Vous voyez, c'est tout de suite deux différences très très grandes entre les deux. Et c'est intéressant à noter, ça. Alors, vous allez essayer de comprendre l'argumentation de saint Thomas. Les actes humains sont bons selon qu'ils sont conformes à la règle et à la mesure qui leur convient. Et c'est pourquoi la vertu humaine, qui est le principe de tous les actes bons de l'homme, consiste à atteindre la règle des actes humains. Or, cette règle est double, comme on l'a vu plus haut. La raison humaine et Dieu lui-même. Ça, c'est très très important, il faut toujours souligner. On l'avait vu à propos du péché. Il y a deux manières de se détourner de la réalité. C'est ou on est contre Dieu, ou on est contre la raison. Et quelquefois, on est contre les deux en même temps. Mais ici, c'est la même chose. Cette règle est double, comme on l'a vu plus haut, la raison humaine et Dieu lui-même. Ainsi, de même que la vertu morale se définit par le fait d'être selon la raison droite, comme il est dit aux éthiques d'Aristote. De même, atteindre Dieu prend raison de vertu, comme il a déjà été montré pour la foi et pour l'espérance. Puisse donc que la charité atteint Dieu en nous unissant à lui, ainsi que l'affirme saint Augustin dans le texte cité en cette contrat. Il faut conclure que la charité est une vertu. Mais le raisonnement simple de saint Thomas pour montrer comment la charité est une vertu. Qu'est-ce que c'est que la vertu? La vertu, c'est ce qui nous permet d'atteindre la règle de nos activités humaines. La règle de nos activités humaines est double. Ou c'est la droite raison, ou c'est Dieu. La droite raison, c'est la prudence. Hein, c'est donné dans la prudence. La droite raison. J'ai bien réfléchi sur ce que je veux faire, je vais croire prendre ce point de vue-là. Alors, la droite raison, c'est une crête. Hein, ne disons pas du tout, c'est une espèce de médiocrité, intermédiaire entre les deux passions. Non, non, non. La droite raison, c'est toujours, comme toujours la vertu de prudence, c'est une crête, c'est un sommet. Un sommet en face de deux précipices. Les passions me mènent dans le précipice. La droite vertu me permet d'aller au-dessus. Alors, la droite vertu, elle est saisie par la prudence, et puis la foi me fait saisir Dieu. Donc, ce qui règle ma vie humaine, c'est ou la droite raison, ou Dieu lui-même, quand il s'agit du croyant. Dieu qui me donne un précepte. Dieu qui me dit, il faut être charitable. Dieu qui me dit, il faut être miséricordieux. Dieu qui me dit, il faut être juste. Alors, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même dans sa volonté. Donc, il y a ces deux aspects de la règle. Or, la charité nous permet d'adhérer directement à Dieu comme règle de notre vie. Donc, la charité est une vertu, puisque le propre de la vertu, c'est du verbe latin, comme règle de vie, ou notre droit présent, ou Dieu lui-même. Oui, c'est un raisonnement simple au point de vue théologique. C'est un raisonnement qui nous fait comprendre le rôle de la charité dans notre vie. Le rôle de la charité dans notre vie, c'est de nous unir à Dieu comme règle de notre vie. Quand on aime quelqu'un, c'est sa volonté qui est notre règle de vie. Idem valet. Alors là, nous trouvons l'idem valet. La charité est une vertu qui nous fait comprendre, qui nous permet d'adhérer pleinement à la volonté même de Dieu sur nous. Et c'est en adhérant pleinement à cette volonté même de Dieu sur nous que nous sommes vertueux. Vertueux dans l'ordre de l'amour. Vertueux en étant aimant. C'est preuve de la charité de pouvoir unir l'amour et la vertu. Ça, vous ne pouvez pas faire ça autrement. Au point de vue humain, c'est impossible. Au point de vue humain, vous avez l'amour d'une part et la prudence d'autre part. Et entre les deux, votre cœur balance. N'est-ce pas ? Parce qu'au point de vue humain, c'est toujours ce qui se passe. Il y a d'une part la prudence, d'autre part l'amour. Si je suis mon cœur, je sais très bien que... Et si d'autre part je suis prudent, je sais très bien qu'ils vont faire ceci. Alors entre les deux, vous voyez, il y a toujours les deux. Au point de vue humain, au point de vue surnaturel, ce qui est merveilleux, c'est que l'amour est vertu. C'est la grande chose de la charité. Alors voyons maintenant les objections. Je crois que c'est facile à comprendre, quand on a saisi. Vous voyez, c'est deux analogies. Hein. L'amour d'amitié et la vertu. Mais comprenez bien ce qu'on veut dire par là. Hein. Dans l'amour d'amitié, je montre comment mon cœur s'identifie avec le cœur du Christ. Et en disant vertu, je montre comment ma volonté d'amour s'identifie à la volonté d'amour du Père sur moi. Très beau, ça, c'est les deux aspects, l'aspect affectif et l'aspect effectif. Vous voyez, les deux aspects qui se complètent. Parce que la charité, les deux. La charité n'est pas seulement une affectivité, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de volonté, mais c'est une question d'amour. Il y a toujours les deux. Celui qui dirait uniquement « Oh, la charité, c'est une question de volonté. » Oui, c'est très vrai, c'est pas suffisant. C'est comme celui qui dit « La vocation, c'est une question de volonté. » C'est plus de vouloir, on a la vocation. C'est pas tout à fait vrai. Parce que ça tient un an, et puis après, ça suit. S'il n'y a pas l'amour, l'amour qui renouvelle, l'amour qui reprend tout. La question de volonté joue, parce que si c'est une question uniquement affective, mais ça dépend des jours. Quand il fait chaud, je suis donc tout prêt à entrer. Et quand il fait froid, c'est bien froid ce monastère. Alors à ce moment-là, non. Quand il fait chaud, c'est merveilleux. C'est vrai, on a la fraîcheur et la chaleur. C'est merveilleux. Il n'y a rien de plus parfait que ça. Tandis que quand il fait froid, on a le froid tout court. Hein. Et alors, si c'est à ce moment-là, on est peut-être un peu moins chaud, n'est-ce pas, pour dire j'ai la vocation. Alors, voyons bien la première objection. Non, semble-t-il, la charité n'est pas une vertu, car la charité est une amitié. Or, les philosophes n'enseignent pas que l'amitié soit une vertu. Ainsi qu'on le voit dans l'éthique. On ne les trouve énumérées ni parmi les vertus morales, ni parmi les vertus intellectuelles. Elles n'est donc pas une vertu. Très grosse question que soulève l'objection, vous l'avez donnée. Vous allez voir la manière dont Saint-Amand va répondre, c'est très amusant. Moi je réponds en disant ça. En disant, il y a deux analogies. Saint-Amand ne va pas répondre comme ça, vous allez voir. C'est curieux, il aurait pu répondre comme ça tout de suite. Il n'aura pas répondu comme ça. C'est pour ça que je voulais donner la réponse avant. Il vaut mieux être devant Saint Thomas pour ne pas se corriger après. Non, Aristote ne nie pas absolument aux éthiques que l'amitié soit une vertu. Mais il dit qu'elle est vertu ou qu'elle va aussi avec, qu'elle va avec la vertu. Il est en effet possible de soutenir qu'elle est une vertu morale, ayant pour matière nos actions. À l'égard d'autrui, mais qui les envisage sous un autre aspect que la justice. La justice, en effet, se rapporte à telle action du point de vue de ce qui est légalement dû. Tandis que l'amitié, elle les envisage au titre de dette amicale ou d'obligation morale ou plus encore de bienfaits gratuits, comme Aristote le montre dans le même traité. Cependant, on peut dire aussi que l'amitié n'est pas une vertu, distincte par elle-même des autres vertus. On ne saurait en effet la louer et la prouver comme bonne que d'après son objet, c'est-à-dire selon qu'elle se trouve fondée sur l'honnêteté des vertus, car toute amitié n'est pas louable ni honnête, comme on le voit pour l'amitié qui vise le plaisir et l'utilité. L'amitié vertueuse est donc plutôt une conséquence de la vertu qu'elle n'est qu'une vertu elle-même. Mais il n'en est pas de même de la charité, qui n'est pas fondée principalement sur la vertu humaine, mais sur la bonté divine. Donc vous voyez que saint Thomas répond en essayant de montrer qu'il y a quand même dans l'amitié quelque chose qui la lie à la vertu. Moi j'aime mieux montrer que la vertu, que l'amitié, parce que je crois que vraiment l'amitié n'est pas une vertu, selon Aristote. Si on regarde attentivement, c'est pas une vertu. C'est quelque chose qui touche la fin. La vertu touche les moyens. Évidemment, vous ne pouvez pas, quand vous dites que j'aime quelqu'un, vous ne pouvez pas utiliser la personne que vous aimez. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'à la place de la regarder comme une personne, on la regarde comme un objet. Aujourd'hui, c'est très très net. L'amour d'amitié regarde la personne humaine. Si l'amour d'amitié regarde la personne humaine, l'amour d'amitié ne regarde pas un moyen. Je ne peux pas utiliser quelqu'un parce que je l'aime. Alors je l'utilise. C'est très vrai que je peux considérer mon ami comme celui auquel je peux demander le plus de service. Ça, c'est vrai. Je peux lui demander le plus de service. Mais jamais je ne considérerai l'amour d'amitié de l'ordre de l'utile. Tandis que les vertus sont de l'ordre de l'utile. Bon, c'est bien évident. Ah, un peu plus que les utiles. Mais c'est quand même de l'ordre des vertus, parce que ce sont des oublis qui nous ennoblissent. Ce sont des outils qui nous ennoblissent. Hein. Ce sont des outils qui nous permettent d'avoir une qualité particulière. La vertu nous qualifie. Donc elle nous ennoblit. Mais quand même, elle regarde les moyens. Tandis que l'amour d'amitié va beaucoup plus loin. De sorte que j'aime mieux montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre vertu et amour d'amitié. C'est très vrai. La vertu fonde l'amitié. C'est ce que saint Thomas souligne. La vertu fonde l'amitié. Une véritable amitié est fondée sur la vertu. Une amitié qui n'est pas fondée sur la vertu risque de dégénérer dans un amour d'amitié au niveau du plaisir ou au niveau de l'utilité. Alors à ce moment-là, l'amour d'amitié disparaît. Le véritable amour d'amitié. Donc le fondement de l'amour d'amitié, c'est la vertu. Ça, c'est très vrai. Quand il s'agit de la charité est formellement vertu et formellement amitié, pas seulement fondamentalement. Et c'est là où ce que je vous disais tout à l'heure reste vrai. Je vais bien montrer qu'il y a deux analogies différentes qui nous permettent de préciser ce qu'est la charité. Bon, alors voyons maintenant la seconde objection. La vertu, au dire d'Aristote, est l'achèvement d'une puissance. Je vous disais tout à l'heure, l'excès, la puissance et la dynamisme. Alors, la vertu, c'est la puissance qui vient permettre à la dynamisme d'aller le plus loin possible. Donc, on peut dire que la vertu est l'achèvement d'une puissance. Or, la charité n'est pas un achèvement, mais plutôt la joie et la paix. Celles-ci, donc, sont des vertus, bien plutôt que la charité. Alors, réponse. Aimer quelqu'un et éprouver de la joie à son propos relève de la même vertu, puisque la joie est une fuite de l'amour, comme on l'a montré au traité des passions. On dira donc de l'amour qu'il est vertu, plutôt que de la joie qui est un effet d'amour. Quant au titre d'achèvement de la puissance, qui est mis dans la définition de la vertu, il ne veut pas signifier que la vertu est en effet de la puissance, mais plutôt, mais qu'il la surpasse comme 100 livres surpasse 60 livres. Donc c'est tout simplement de montrer encore ici que nous ne pouvons pas ramener l'amour d'amitié à la vertu. Que l'amour d'amitié est comme l'épanouissement, comme la gloire de la vertu. Ça présuppose la vertu, mais ça dépasse la vertu. Donc vous voyez, c'est pour essayer de comprendre justement comment l'amour d'amitié ne peut pas se ramener à la vertu. Il y a quelque chose de nouveau. Ça touche la question de la finalité. C'est l'espèce d'épanouissement plénier. Troisième objection, toute vertu est un habitus du genre accident. Or, la charité ne peut pas être un habitus de ce genre, puisqu'elle est plus noble que l'âme elle-même, et qu'aucun accident ne peut être plus noble que son sujet. Ça, c'est très joli comme objection. Hein? Très très joli, parce que c'est tous les rapports de la nature et de la grâce. La grâce est-elle reçue dans la nature? Oui. Et pourtant, la...